Vous écoutez RTL.
RTL. Tout au nord de la Russie, sur des centaines de milliers de kilomètres carrés, le permafrost. Voilà comment on appelle ces sols gelés, hiver comme été, dont la température ne dépasse jamais les 0 degrés.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais depuis quelques années, ce permafrost fond. Quand elle fond, elle dégage du méthane, un gaz dont l'effet de serre est plus puissant que le CO2, une bombe environnementale.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Permafrost et s'il libérait des armées de virus, c'est le titre du dossier de nos confrères du magazine Science et Vie, Émilie Rocher. On a commencé à en parler de ce bacille d'anthrax, de l'anthrax, qui a fait son apparition en Sibérie, c'était l'été dernier, à cause du réchauffement climatique qui a fait fondre en fait une partie des sols gelés. Qu'est-ce que la libération de ce bacille d'anthrax, un mot qui fait peur, vous allez nous expliquer ce que c'est, a provoqué autour de lui, dans la population?
Alors, l'anthrax, c'est le nom anglais, en fait, de la maladie du charbon, qui est quand même assez tristement célèbre chez nous, puisqu'elle a quand même fait des ravages dans les troupeaux jusqu'au 19e, etc. Et là, la réapparition en Sibérie, bon, sachant qu'il a jamais vraiment disparu, a provoqué, en fait, une hécatombe. Il y a quelques 2500 rennes qui ont été tuées, une bonne 70aine de personnes, des nomades qui vivent en Sibérie, qui ont été touchées, et il y a eu, malheureusement, la mort d'un petit garçon également. Donc, cette bactérie a fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire provoquer une épidémie.
Comment les hommes ont été touchés en fait par cette bactérie?
Alors l'anthrax peut pénétrer le corps humain de différentes façons, mais il ne va pas se transmettre d'homme à homme. Donc c'est pas un homme malade qui en a infecté un autre. En l'occurrence, les gens sont tombés malades parce qu'ils ont mangé de la viande infectée, contaminée par le bacille. En gros, les rennes se baladaient en Sibérie. Ils ont mangé de l'herbe. Cette herbe était en fait infectée par des bactéries. Ils sont donc tombés malades. Et du coup, ils ont infecté les hommes qui ont mangé leur viande.
Donc l'anthrax, c'est ça, le bacille d'anthrax, est un virus qui touche d'abord les animaux.
Une bactérie.
Quelle est la différence entre une bactérie et un virus d'ailleurs?
Alors la bactérie, c'est un organisme autonome, une toute petite cellule qui est capable de se multiplier toute seule. Elle peut être plus ou moins allongée, enfin bref, elle a sa petite vie à elle. Alors que le virus, lui, il a besoin d'un autre pour se multiplier. Il est en général beaucoup plus petit, hors cas particulier. Et ce qui fait que tant qu'il n'a pas infecté un autre et utilisé sa machinerie biologique pour se multiplier, il ne va pas se passer grand-chose.
Cette maladie du charbon, on sait depuis quand elle a fait son apparition sur Terre. Il y a des récits, il y a des traces de ça.
Alors effectivement, on a une assez longue histoire commune de, on va dire, près de 3000 ans. Oui. Elle est sans doute vraiment déjà apparue en Égypte, en Mésopotamie. Et on pense que Hippocrate l'a décrite, puisqu'il parle de certaines plaies avec des taches noires. Et ces taches noires, c'est vraiment une forme typique de la maladie du charbon, en tout cas de la forme cutanée, de la maladie du charbon.
Donc vous nous l'avez dit, c'est une maladie qui peut être mortelle pour l'homme, puisque dans ces cas récents en Sibérie, il y a un petit enfant qui en est mort, c'est ça, hein?
Tout à fait, malheureusement.
Et la maladie, c'est quel type de maladie? C'est des fièvres, c'est une maladie cutanée, c'est quoi?
Alors justement, ça va dépendre de la façon dont le bacille entre dans notre corps. Mm-hmm. Ce qui s'est passé en Sibérie, c'est, donc on a dit que c'était des gens qui avaient mangé de la viande infectée, donc c'était la forme gastro-intestinale, qui n'est pas la plus courante, mais qui est mortelle de, on va dire, dans 25 à 60% des cas. Donc on mange la viande, on commence à avoir des fièvres, il peut y avoir des ulcères intestinaux, stomacaux, des diarrhées, des fois des diarrhées sanglantes, ce genre de choses. La forme la plus répandue, c'est donc celle que décrivait Aristote, c'est celle qui est cutanée et donc qui va provoquer ces espèces de pustules, d'ulcérations noires sur la peau. Elle est moins mortelle, on va dire, seulement dans 20% des cas. Et la dernière forme, la plus terrible, qui est mortelle dans quasiment 100% des cas, c'est une forme pulmonaire, où là, cette fois, la bactérie entre dans les poumons et voilà.
Cette anthrax, cette maladie du charbon, elle n'avait pas complètement disparu de la surface de la Terre. Elle pouvait exister sporadiquement dans certaines régions.
Voilà, tout à fait.
Oui, elle existe
encore.
Mais là, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle est ressortie du sol gelé, en fait.
C'est ça.
Par quel phénomène? Simplement le réchauffement climatique? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, c'est amusant que vous ayez utilisé les termes sporadiquement, parce que, en fait, la bactérie, quand elle tue quelqu'un, elle va parfois rester dans son corps sous la forme de spores. La spore, en fait, c'est la forme de résistance de la bactérie. Donc elle se recroqueville sur elle-même, elle se crée une petite protection, et elle va rester comme ça en dormance.
Comme si elle hibernait, en quelque sorte.
Elle hiberne. Elle n'a pas besoin qu'il fasse froid, mais elle hiberne, elle attend. Il peut se passer quelques mois, quelques années, quelques décennies, voire beaucoup plus. Et quand les conditions redeviennent idéales, qu'elle est dans un nouvel hôte, un homme par exemple, ou un renne, et bien là, elle se remet en marche. Et donc, elle se multiplie et il arrive à l'hôte ce qui doit lui arriver. Et le problème du réchauffement climatique, c'est qu'il va réchauffer des sols qui sont gelés depuis très longtemps, des sols qui peuvent abriter des charniers dont aujourd'hui on ne se rappelle plus parce qu'ils ont un siècle, des tombes qui ont trois siècles. Et du coup, la bactérie redevient indisponible, des hommes passent, des rennes, et ils la ramassent au passage, et voilà.
Et si on remonte dans le temps, comment ce bacille de l'anthrax s'est retrouvé enfermé dans la glace? C'était il y a à peu près 75 ans.
Alors, effectivement, on pense que l'épidémie de cet été vient de bactéries qui datent des années 1941, parce que c'est la dernière grosse flambée épidémique qui a eu lieu en Sibérie.
Le principe, c'est quoi? C'est qu'il y a des animaux morts, par exemple, qui vont rester sur la glace et peu à peu ne pas être enterrés et se recouvrir de glace et comme ça appartenir à ce qu'on appelle le permafrost. C'est ça le processus?
C'est vrai que la Sibérie, c'est pas très peuplé. Donc il peut y avoir des troupeaux immenses qui peuvent tomber malades. Et quand vous avez des milliers de têtes qui meurent, vous n'avez pas le temps ni la possibilité de les enterrer, surtout si c'est des troupeaux sauvages. Donc effectivement, c'est des corps qui vont rester là, qui vont se recouvrir peu à peu, se décomposer, sauf que pas entièrement, mais par contre, ils vont être préservés en partie par la glace.
Alors le permafrost, c'est un nom que moi j'ai découvert il y a très peu de temps finalement. Il existe depuis toujours, on le nomme comme ça, mais personne n'en parlait. On en parle depuis le réchauffement climatique. C'est quoi le permafrost exactement?
Alors nous on l'appelle en français pergélisol, et en fait c'est tous ces sols gelés qui restent gelés donc pendant au moins 2 ans. Donc ils restent à 0 degré au maximum pendant plus de 2 ans. Donc plus le temps passe, plus en fait la température peut baisser, elle va... descendre de plus en plus profondément, ce qui fait qu'on peut avoir des permafrosts de plus d'un million d'années et qui vont descendre sur parfois plus de 700 mètres de profondeur.
D'accord, ce que j'allais vous demander, c'est une couche de glace en quelque sorte, de sol gelé qui est très épaisse.
Voilà, c'est une espèce de boue gelée qui comprend tout ce que comprend un sol, simplement, il est en dessous de zéro, donc tout est figé à l'intérieur.
Mais c'est ce qu'on appelle un palimpseste, c'est ça, un parchemin en fait de notre histoire. C'est toute notre histoire qui est dans ce permafrost.
Les scientifiques, effectivement, sont très friands de ce genre d'endroits parce qu'ils font des carottages qui leur permettent de... Plus ils vont profond et plus ils remontent le temps. Donc, en général, ils s'en servent pour raconter l'histoire des continents, de la biodiversité. Mais en l'occurrence, on peut aussi retomber sur des micro-organismes qui sont figés là depuis un certain temps.
Et donc, ce congélateur géant où tout était figé depuis des décennies, des siècles, peut-être plus, c'est comme si on avait d'un seul coup ouvert la porte, c'est en train de fondre à cause du réchauffement. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être des virus qui font leur apparition ou leur réapparition. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Ici Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Le permafrost peut-il avoir la peau de l'humanité? Elle semble un peu bizarre, cette question. Et pourtant, on se la pose parce que dans le magazine Science et Vie, on vous explique comment les glaces ont enfermé pendant des millénaires des bactéries, des virus qui aujourd'hui sont potentiellement libérés à cause du réchauffement climatique. Émilie Rocher, on parlait à l'instant de ce bacille de l'anthrax découvert l'été dernier en Sibérie. Dans l'article du magazine Science et Vie, vous dites que c'est un simple avertissement. Qu'est-ce qui se profile en fait?
Déjà, il faut se rappeler que le permafrost couvre à peu près le quart de l'hémisphère nord, entre la Sibérie, l'Alaska, les montagnes. Ça fait quand même déjà de la surface.
Un petit bout de Canada aussi.
Un petit bout de Canada. Donc, avec le réchauffement, ça veut dire de plus en plus de permafrost qui dégèle et donc potentiellement de plus en plus de choses, plus ou moins diverses, qui peuvent ressortir. Sachant qu'il y avait effectivement énormément de charniers naturels ou d'animaux d'élevage qui sont aujourd'hui inconnus, il y a potentiellement effectivement beaucoup de bactéries et de virus qui attendent.
D'accord, et qui donc pourrait se transmettre d'abord à quoi ? Aux animaux qui vivent sur cette, dans cette région du monde, c'est ça ?
Ça va dépendre effectivement des bactéries. Pour ce qui est de l'anthrax, les premières victimes, c'est effectivement les animaux. Là, on a parlé des rennes. Les moutons sont également très sensibles, les bœufs, les chevaux. Mais on l'a vu, l'homme n'est pas à l'abri.
Ça veut dire qu'on prend des précautions déjà, par exemple en Sibérie, on abat des troupeaux pour pas qu'ils véhiculent de virus ?
Tout à fait, c'est le principe de précaution. Là, il y a près de 250 000 têtes de bétail qui malheureusement ont sans doute été sacrifiées ces derniers mois pour empêcher l'épidémie de s'installer et a fortiori de se répandre.
Alors là, on parle des animaux, mais il y a des hommes aussi, des nomades, notamment en Sibérie. Il faut les protéger. À la fois, ce sont eux aussi qui véhiculent et qui peuvent véhiculer ces virus en faisant des allers-retours, je sais pas, dans les villes, par exemple, en traversant des villes.
C'est sûr que les nomades, en l'occurrence les Nénètes, vivent là-bas. Ils traversent la Sibérie avec leurs troupeaux, donc ce sont les premières victimes potentielles.
Vous les appelez comment, les ?
Les Nénètes.
Nénètes.
Et le problème... Mais après, c'est un problème bien involontaire, c'est que les campagnes de vaccination se sont arrêtées en 2007. Parce qu'on considérait que la zone, en fait, était désormais libre du bacille, donc il n'y avait plus besoin de vacciner sa population. Malheureusement, pour ce genre de bacille, il y a toujours, on le voit, la possibilité qu'ils ressortent. Et les nomades ne sont pas les seules populations. On a, avec le dégel, de plus en plus de ressources qui deviennent accessibles, donc c'est-à-dire des forages qui deviennent possibles, donc des ingénieurs qui peuvent venir s'installer. Il y a parfois des opérations militaires, donc ça fait en fait pas mal de monde qui peut aller se promener dans ce secteur et ramener dans ses bagages un peu plus que des souvenirs.
Est-ce qu'il y a d'autres vecteurs possibles d'un virus ou d'une maladie qui ressort de ce permafrost ?
Et ben tout ce qui se promène.
Tout ce qui se
donc
promène.
Les troupeaux, les hommes, mais aussi surtout les oiseaux qui sont un peu spécialistes de la chose. C'est ce qui se passe avec la grippe aviaire régulièrement. En ce moment, en Europe, il y a des dizaines de milliers d'oiseaux qui sont abattus, notamment en Europe du Nord. Bon, là, c'est pas l'anthrax, c'est une grippe aviaire, mais c'est exactement le même phénomène, en fait.
C'est une vraie bombe à retardement dont on parle, là, ce permafrost qui est en Sibérie, en Alaska, au nord du Canada. Il y a des scientifiques russes, par exemple, qui sont déjà à pied d'œuvre. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils prélèvent ? Qu'est-ce qu'ils surveillent ?
Oui, les scientifiques ne sont pas non plus nés de la dernière pluie, ni de la dernière neige. Et ils sont là-bas sur place depuis un certain temps. Ils surveillent les épidémies. C'est pour ça qu'il y a des campagnes de prévention qui ont été faites pendant longtemps. Elles vont peut-être reprendre. Les troupeaux sont surveillés, donc il y a des réactions très rapides. Et dès qu'il y a eu la flambée épidémique, il y a des virologistes, des microbiologistes qui sont allés sur place pour faire des prélèvements dans le sol, des prélèvements sanguins des malades pour localiser effectivement la zone, identifier les souches responsables de la maladie, ce qui permet d'adapter éventuellement un traitement antibiotique et aussi éventuellement tester d'autres zones où on sait qu'il y a eu des épidémies par le passé et voir si les souches bactériennes ou virales sont encore présentes ou pas. Donc les autorités ne prennent pas ça à la légère.
Bien sûr, on l'imagine. Par exemple, vous disiez d'anciens virus, qu'est-ce qui pourrait réapparaître ? La grippe espagnole, par exemple ?
Alors, c'est un excellent exemple, malheureusement. La grippe espagnole a été testée là-bas parce qu'on sait que, même si elle porte le nom d'Espagnol, elle a conquis, on va dire, la planète et elle est allée jusqu'au bout de la Sibérie. Et il y a des cimetières dont on sait qu'il y a eu des malades morts enterrés là-bas. Et il y a eu, effectivement, des analyses génétiques sur certains corps qui ont révélé que certains bouts du génome du virus étaient toujours présents.
Alors attendez, pour bien comprendre, parce que s'il y a des gens qui nous rejoignent, peut-être qu'ils ne visualisent pas, donc des cimetières qui ont été ensuite ensevelis en quelque sorte, qui se sont retrouvés à plusieurs dizaines de mètres sous la surface de la glace, c'est ça ? Dans le permafrost ?
Quand on fait une tombe, on fait un trou. Donc là, pour le coup, ce sont des cimetières tout à fait classiques, où les gens sont morts de la grippe espagnole, par exemple. Ils ont été inhumés de façon tout à fait normale, naturelle. Mmh. Simplement, comme c'est un sol gelé, c'est très compliqué de creuser, donc c'est des corps qui ne sont pas inhumés très profondément. Donc, ce qui facilite d'autant une éventuelle ressortie des bactéries ou des virus.
Mais est-ce qu'on peut craindre une épidémie de la grippe espagnole ? Est-ce qu'aujourd'hui, elle aurait pris sur nous parce que nos systèmes immunitaires ont changé ? La vie n'est plus la même ?
Voilà. La grippe espagnole, c'est un cas un petit peu d'école. Et c'est pour ça que les scientifiques s'y sont intéressés, parce qu'on connaît bien la souche, on sait les dégâts qu'elle a causé. On sait que des gens en sont morts, donc ça permettait de voir dans quel état était le virus après un siècle. Mais si le virus ressortait aujourd'hui, il n'en provoquerait pas les dizaines de millions de morts qu'il a provoquées
jusqu'à 40 millions de morts.
Voilà, et encore ça c'est la fourchette basse. Il y a certains qui sont un petit peu moins optimistes, qui vont jusqu'à 100 millions, mais ça a été plus mortel en fait que la première guerre. Donc c'est vraiment un cataclysme, mais qui ne risque pas normalement de se reproduire, parce que comme vous le disiez, notre système immunitaire a de la mémoire. Comme il a déjà été en contact avec cette grippe, il s'y est habitué, enfin, même si c'est nos grands-parents, ça se transmet. Mais voilà.
Bon, on va essayer d'être pas trop alarmiste et en même temps voilà, de se poser les bonnes questions. Le titre de l'article de Science et Vie, c'est « Permafrost et s'il libérait des armées de virus ». Parmi ces virus, il y a la variole. On va se poser la question de la variole. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Une armée de virus qui s'échappe des sols gelés du Canada, de l'Alaska et de la Sibérie. C'est un scénario catastrophe qu'explorent nos confrères du magazine Science et Vie de décembre. Et on découvre cet article et cette enquête menée et supervisée par Émilie Rocher. Parmi les virus qui pourraient être libérés par le permafrost, qui font comme ça à cause du réchauffement climatique, la variole. Alors on va d'abord, évidemment, on va rassurer tout le monde qu'il n'y a absolument pas d'épidémie de variole, mais quels sont les symptômes de cette maladie ?
Alors la variole, qui était gentiment surnommée la petite vérole par rapport à la syphilis qui était la grande, est un virus vraiment très contagieux. Je pense que c'est un des champions de toute catégorie, et qui tire son nom en fait de la pustule. Pustule parce qu'il provoquait en fait ces éruptions cutanées absolument terribles qu'on voit quand on regarde des photos, qui pouvaient couvrir soit le visage, soit le corps entier des gens qui étaient contaminés.
Depuis quand la variole a été éradiquée ?
Alors officiellement, c'est en 1980 que la planète a été déclarée free, libre de la variole. Et le dernier cas remonte à 4 années précédentes, donc en 1976.
Au 19e siècle, et on va comprendre pourquoi on s'y intéresse dans cet article et dans cette partie de la curiosité qu'on consacre au permafrost, donc ce sol gelé, notamment en Sibérie. Au 19e siècle, la variole a ravagé un village de Sibérie. Qu'est-ce que ça avait eu comme effet à l'époque sur la population ?
Oh ben le même que partout ailleurs, c'est-à-dire que si on se fie aux statistiques un peu mondiales, il y a au 18e en tout cas, donc c'était quand même pas bien loin, il y avait près de 80% de la population qui était touchée, donc ce qui veut dire beaucoup, et il y en a presque 10% qui mouraient. Donc là, ce qui s'est passé en Sibérie, c'est qu'en fait un village a vu 40% de sa population disparaître, donc avec les symptômes qu'on a décrits précédemment, donc les fièvres, toutes ces éruptions cutanées. Et donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on enterre. Le problème de la Yakoussi, c'est qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est un sol gelé, donc c'est difficile d'inhumer, donc on enterre ça pas très profondément.
Et donc ils réapparaissent avec la fonte du permafrost, c'est ce qui est en train de se passer ?
Tout à fait. Avec le réchauffement, le sol devient plus meuble, donc des animaux peuvent venir déterrer ce qui affleure, mais il y a aussi des cours d'eau qui grossissent, et c'est le cas dans ce village de Yakoutsi, Zarachifesk. Et la rivière Kolyma, en fait, est de plus en plus grande, avec les neiges et les glaces qui dégèlent. Et en grossissant, et ben, ces rives viennent grignoter peu à peu la terre du cimetière qui est juste à côté. Cimetière où on sait qu'il y a des gens qui sont morts de la variole, qui ont été inhumés.
Alors pour bien comprendre, on dit quoi alors ? Ce virus, ce bacille,
c'est un virus.
De la variole, est-ce que les scientifiques ont pu le déterminer et voir qu'il était viable, qu'il pouvait se propager ? Ou alors est-ce qu'il est encore endormi ?
Alors, la différence avec les bactéries, on va dire heureusement, c'est que les bactéries, elles peuvent faire ces formes de résistance dont on a parlé, les fameuses spores. Le virus, non. Le virus, il intègre son ADN à celui de son hôte et il utilise toute sa machinerie cellulaire pour se multiplier.
Donc, il faut être vivant. Donc, si on découvre ce virus dans des corps morts,
l'ADN n'est plus fonctionnel. puisque la personne est morte, toute la machinerie s'est arrêtée. Mais par contre, il va rester des bouts. L'ADN se coupe au fil du temps, donc il se retrouve en fragments de plus en plus petits. Mais les scientifiques peuvent toujours les retrouver et les analyser.
Donc, mais est-ce que ça veut dire que les scientifiques pourraient recréer la maladie de la variole ? Alors, un scientifique fou, par exemple ?
Il n'y aurait pas forcément besoin de la recréer, parce qu'il y a deux laboratoires qui la conservent dans leur frigo, littéralement. Un laboratoire russe et un laboratoire américain. Ce qui n'empêche pas que de temps en temps, certains retrouvent des fioles qui étaient mal annotées dans des laboratoires qui n'ont pas le niveau de sécurité qu'il faudrait. Bon, c'est très rare, hein, et il n'a jamais ressorti. Mais de toute façon,
on va essayer de garder notre bonne humeur, malgré le ton quand même un peu alarmiste de cet article et de cette émission. Mais il y a aussi un point, alors j'ai envie de dire un point positif dans cette histoire, c'est que ça permet à des scientifiques de remonter très très loin dans le temps pour savoir quel virus frappait nos lointains ancêtres, c'est ça ?
Alors, pas forcément nos lointains ancêtres, même si c'est dans la limite du possible, mais ça les intéresse beaucoup parce qu'ils peuvent du coup retracer l'évolution des virus et des bactéries eux-mêmes. Parce qu'on sait quelle forme ils ont aujourd'hui. Oui. Des virus comme la grippe, ils ont énormément de formes et de souches. Donc, connaître les formes qui existaient il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle, et bien, en fait, c'est super intéressant pour comprendre comment ils ont évolué, à quelle vitesse, qu'est-ce qui a changé et qui du coup les a rendus plus ou moins infectieux, contagieux, etc. Donc, c'est en fait toute l'histoire des virus qui peut être ainsi recréée.
Et je disais ça parce qu'en 2014, je crois, il y a eu une découverte qui a été faite toujours en Sibérie, un virus qui était vieux de 30 000 ans, c'est ça ?
Oui. Alors celui-là, il est super, si je puis dire, parce que c'est un virus géant. Et là,
c'est la journaliste scientifique qui parle là.
Oui, c'est ça.
Non, mais le monde des virus, c'est complètement fascinant. Parce qu'on a des virus normaux, la grippe, etc. Et on a découvert il y a quelques années qu'il existait des virus géants. Donc c'est des virus, par leur mode de fonctionnement, mais qui ont des tailles beaucoup plus grandes, avec des génomes beaucoup plus gros, et qui en fait ouvrent de nouvelles perspectives sur la vie elle-même. Et donc ce virus qui a été retrouvé en 2014, c'est un de ces virus géants. Donc ça nous offre en fait tout un pan de l'histoire qu'on ne connaît pas. Certains pourraient éventuellement être infectieux. Celui-là en l'occurrence, qui a été découvert en 2014, l'est, mais pas pour l'homme. Il est pour des amibes, chouette, qui sont des cellules, des organismes unicellulaires. Le truc, c'est que parfois, on les retrouve aussi associés à des maladies comme des pneumonies. On ne sait pas s'ils les provoquent, mais en tout cas, ils peuvent profiter d'un affaiblissement du système immunitaire pour se développer.
Alors, Émilie Rocher, l'autre bombe à retardement, c'est le méthane. C'est un puissant gaz à effet de serre. Comment est-il fabriqué ou contenu dans le permafrost ?
Alors, il peut être présent pour différentes raisons, parce que c'est un gaz de l'atmosphère, donc il peut se retrouver pris dans des bulles qui sont dans la glace, etc. Mais surtout, les bactéries vont le libérer en mangeant en fait ce qui se trouve autour d'elles. Elles se multiplient, elles font comme nous, elles ont besoin de manger, donc elles attrapent des petites protéines qui sont autour, et en le dégradant, elles fabriquent du méthane. Donc en fait, elles-mêmes, elles peuvent provoquer la fonte de ce permafrost qui va leur permettre de se libérer.
Et donc c'est un cercle vicieux.
C'est un cercle vicieux.
Merci beaucoup Émilie Rocher. Le magazine Science et Vie de décembre est en kiosque évidemment avec ce titre, cette une, Pourquoi le monde existe ? Comment la matière a gagné son combat contre le néant ? Merci à vous.
Merci beaucoup Émilie.
Vous écoutez RTL.